l'accueil. Je précise qu'on ne vient pas de Genève, on vient de Gaillard, en Haute-Savoie. C'est important la distinction, hein. Alors, avant la lecture, j'aimerais dire que le serment que vous allez entendre tire sa source dans un serment que j'ai entendu il y a quelques mois, je peux dire même la date exacte, le 17 septembre 2016. Non, 2017. On est 2018, hein. Excuse-moi. Quand j'étais empêché d'aller à l'église à Genève, et je me suis dit, bon, je vais regarder, peut-être qu'il y a quelque chose à la télé, et j'ai trouvé une chaîne américaine où un pasteur qui s'appelle Charles Stanley, pasteur d'une grande église baptiste à Atlanta, en Géorgie, dans les États-Unis, et son serment m'a beaucoup impressionné, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors je me suis dit, ben, je me prémère d'être inspiré, si on veut, avec ma propre contribution tout à l'heure de ce serment qui s'appelle, dont il a donné le titre, « Quand la foi cède à la peur ». J'ai été impressionné, d'ailleurs en passant, par l'église, 3000 membres, 3000 personnes, chacun une grande Bible avec un carnet de notes. J'ai dit ça à Genève, mais je n'ai pas eu beaucoup de répondants pour ça. Surtout pour le carnet de notes. Mais enfin, je trouvais que c'était admirable. Alors, c'était un message très simple. Et la lecture se trouve dans Genèse 12, et c'est Béril qui va faire la lecture. Mais je vous demande d'écouter bien la lecture. Parce que vous savez, en Apocalypse 1, verset 3, c'est marqué « Heureux celui qui lit », donc Béril aura une bénédiction, mais aussi « ceux qui entendent, écoutent et entendent les paroles ». Donc il y a une bénédiction à écouter et entendre. Ne vous en privez pas en vous endormant pendant la lecture, parce que c'est tout le chapitre 12 qu'on va lire ensemble. Et réfléchis bien, enfin pense bien, soyez attentifs au titre « Quand la foi cède à la peur ». Et on verra dans un instant plus grand.
Donc Genèse 12. Je commence au début du chapitre. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme !» et ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Pharaon donna des ordres à ses gens à propos d'Abraham, et ils le chassèrent, lui, sa femme et tout ce qu'il avait.
Sur cette fin dramatique, on va continuer à regarder ensemble ce passage. Parler d'Abraham, c'est parler du modèle suprême de la foi. Dans l'Épître aux Romains et aux Hébreux, il est question d'Abraham et de sa foi magnifique. Son nom est mentionné 83 fois dans le Nouveau Testament. Et toutes les allusions sont quasiment favorables, soulignant essentiellement sa grande foi. Et un pasteur théologien a dit ceci, à mon avis, après une étude approfondie, Abraham est le personnage humain le plus important dans toute la Bible. Personnage humain, en dehors de Jésus-Christ, bien sûr. Cependant, Abraham était humain, non pas parfait, ni sans faiblesse. Et il y a un verset très intéressant dans le prophète Ésaïe, faisant allusion à Abraham et Sarai. C'est assez extraordinaire, Ésaïe 51. Regardez, parlant aux enfants d'Israël, regardez le rocher d'où vous avez été taillés et de la carrière dont vous avez été tirés. Considérez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a donné naissance. C'est-à-dire, il était tiré de la carrière du rocher. Le rocher est dur, insensible, sans vie. Et Dieu l'a tiré de ce rocher, comme nous. Nous étions morts, sans vie, insensibles, mais Dieu, par son esprit, comme on nous a rappelé ce matin, nous a retirés de ce fossé, de ce rocher. Et le psaume 121, c'était approprié dans un sens, plus d'un sens. Mais j'aimerais souligner, peut-être que vous avez aperçu, mais le premier verset était souvent mal lu et mal compris. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours ?» Quand j'étais jeune, je pensais que c'était le secours qui venait des montagnes. Et souvent, je trouve que les gens comprennent ainsi. Mais ce n'est pas du tout ça. Et comme François a dit, c'est une question. En fait, c'est tout le contraire. Parce que c'est le psaume d'un pèlerin qui s'approchait de Jérusalem. Et quel que soit le côté dont on s'approche de Jérusalem, il faut monter, il y a une montagne. Et c'est la dernière difficulté d'un voyage souvent très long, pénible. Et c'est donc la montagne qui était un obstacle plutôt que de l'aide. Elle aurait pris d'où viendra le secours pour accomplir, pour arriver, pour monter cette montagne, cette dernière montagne arrivée dans la ville de Sion, de Jérusalem. Et on va voir que ce n'est pas facile et le séjour, l'itinéraire d'Abraham était semé d'embûches et de péage, et de piège. C'est vrai que quand je suis l'autoroute, je pense piège toujours. Je suis désolé, hein, c'est un défaut, mais enfin, c'est comme ça. Mais, comme cet auteur que je viens de citer, elle a dit, il n'y a jamais aucune allusion à l'éradication totale de la vieille nature d'Abraham. L'odeur de la fosse sera sur lui jusqu'à la fin. C'est assez graphique, ça, jusqu'à la fin. Alors, nous passons à Genèse 12, un peu plus en détail, dont le thème est « Quand la foi cède à la peur ». Abraham, devenu Abraham, évidemment, est un exemple de quelqu'un dont la foi a bien cédé à la peur. Quand le Seigneur lui a parlé la première fois, il a donné des instructions et des promesses inconditionnelles en disant « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et ainsi de suite. Dans la foi, il y a une foi magnifique, Abraham a quitté sa maison, d'abord Ur, en Chaldée. Ce n'est pas si clair dans le texte peut-être de Genèse 11 et 12, mais si on lisait le livre d'Actes 7, où Étienne, avant qu'il soit lapidé, a parlé d'Abraham, qu'il a déjà eu une vision de Dieu quand il était à Ur, dans les Chaldées. Et ils ont déménagé, il semble, par l'initiative de son père, à Charan, qui était à peu près 1000 kilomètres plus haut. Aujourd'hui, ce serait situé dans le sud de la Turquie, ce qu'on appelle la Turquie. Donc, 1000 kilomètres de Ur à Charan. Et ce n'est qu'après la mort de son père, Actes 7, 4, que Dieu l'a fait déménager, va, ou qu'il lit une version. Et puis, après, les 1000 kilomètres de Charan, c'était 500 kilomètres à peu près plus loin pour arriver dans le pays de Canaan. Et on a lu, après son arrivée, il a construit des autels pour adorer le Seigneur, y a dressé sa tente, mais avant très longtemps, une situation difficile est survenue qui l'a fait douter du Seigneur. On lit dans le verset 10, il y avait une famine dans le pays et il est devenu craintif. Et là, la foi a cédé à la peur. Et quand la foi a cédé à la peur, lorsque nous accordons plus d'attention à nos circonstances qu'à Dieu. Comme disait un autre écrivain, dans le pays où Abraham était venu en obéissance à l'appel de Dieu, Abraham a connu une grave pénurie de nourriture, une famine. Ce fut d'une part un test de la foi en Dieu et d'autre part une tentation de chercher de l'aide en dehors du choix de Dieu chez les hommes plutôt que de la part du Seigneur. Dieu lui avait renouvelé ses promesses au verset 7, donc il a eu deux fois les promesses de Dieu et pourtant la foi a cédé à la peur. Dieu avait dit, je donnerai cette terre à tes descendants. Mais maintenant, dans l'épreuve, en plus d'être uni à une femme stérile qui ne pouvait pas s'attendre à avoir des enfants, Abraham s'est retrouvé vivant dans un pays sans pain. Donc tout espoir de l'accomplissement de la promesse de Dieu semblait doublement frustré par le manque d'un fils, d'une part, et par le moyen, si même il y avait un fils, de garder un fils en vie. Mais, encore une fois, il faut noter que l'évolution, le changement des circonstances, n'est pas une raison pour arrêter de faire confiance au Seigneur. Je peux m'imaginer moi-même, ou bien un autre chrétien, quand des difficultés inattendues surviennent, dire « Seigneur, j'ai fait quand même de grands sacrifices pour toi. » Poursuivre ta direction de ma vie. J'ai peut-être quitté la maison, ou bien j'ai quitté un emploi, ou je me suis déménagé, j'ai fait un effort, des sacrifices pour te suivre. Et voilà ce qui se passe. des difficultés pour moi et pour ma famille. Comment est-ce que tu peux me laisser tomber ainsi et permettre que cela nous arrive? Ce ne serait pas la première fois que j'aurais été tenté moi-même de dire la même chose et pas la première fois, malheureusement, que j'ai entendu cette de la part de certains frères et sœurs et même un certain nombre semblait avoir abandonné la foi à cause des difficultés. Mais notons aussi que le Seigneur n'a jamais promis une vie facile pour ses enfants. Jamais. Mais il a dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Évidemment, Abraham n'avait pas connu ces paroles, mais pourtant, elles le sont là pour nous, en tout cas. Nous n'avons beaucoup moins d'excuses qu'Abraham, si on veut. Quand la foi cède à la peur, nous prenons des décisions basées uniquement, souvent, sur la raison humaine. Et ce premier pas est toujours le plus dangereux car il ouvre la voie à de nouvelles défaillances et nous rend plus aptes à céder à la tentation suivante, car il y en aura. Et comme nous verrons dans cette histoire, et le vocabulaire est assez pittoresque dans un sens, c'est géographiquement parlant, je sais que c'est marqué qu'il est descendu en Égypte. Descente géographique, mais aussi descente sur le plan spirituel. Et c'est ça le cas. Et le manque de nourriture est devenu pour Abraham la tentation de s'imaginer qu'il devait à tout prix s'assurer du pain pour survivre. Et la façon naturelle d'obtenir du pain était de quitter Canaan et de descendre en Égypte où il y avait assez à manger pour tout le monde. Il a donc mis l'obtention de la nourriture sa priorité et l'a mise avant l'obéissance au plan de Dieu et avant la confiance en la fidélité de Dieu à son égard. C'est vrai qu'il a probablement considéré ce voyage en Égypte comme seulement temporaire, provisoire, en attendant que les choses s'améliorent dans le pays de Canaan, et qu'il reviendrait un peu plus tard pour reprendre la vie à laquelle Dieu l'avait envoyé et appelé. Cependant, aussi raisonnable que semble son plan, même un voyage temporaire, loin de la volonté de Dieu, peut avoir des conséquences que nous verrons désastreuses. Et notez que dans le pays de Canaan, à chaque nouveau lieu où il s'arrêtait, Abraham construisait un autel et adorait Dieu et il dressait sa tente. Deux symboles. D'abord, la tente, c'est la séparation du monde parce qu'il a quitté une grande ville. Et il faut dire en passant que quitter une ville à cette époque-là, comme ça, où la vie était relativement facile, ou même peut-être très facile, aller devenir des nomades était vraiment un exemple d'une foi extraordinaire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple de prendre toute sa famille et ses animaux et les serviteurs et partir comme ça. Donc, il faut quand même l'admirer pour cet itinéraire qu'il avait entrepris dès le début. Mais ces deux symboles signifient sa relation avec Dieu. Notez en Égypte, il n'y a aucun hôtel. Il n'est plus sous la tente, il est dans une ville. Et quand il y a désobéissance au Seigneur, c'est les deux choses, malheureusement, qui souvent sont dépassées par une vie d'infidélité, même si c'est provisoire. Il n'y a plus de relation vivante avec le Seigneur. et nous profitons un petit peu plus, un peu trop peut-être, des choses du monde, et nous en jouissons parce que c'est plus facile. Quelle tentation! Et quand la foi cède à la peur, nous oublions la promesse de Dieu de pourvoir à nos besoins et nous protéger, et nous prenons les choses en main nous-mêmes. Abraham aurait dû faire face à la peur en restant au Canaan et en cherchant la protection, la provision de Dieu qui lui avait été promise. Le Seigneur aurait été fidèle pour prendre soin de lui et sa famille et accomplir toutes ses promesses. David avait écrit, et encore Abraham ne connaissait pas ce psaume, 37 verset 3, « Confie en l'Éternel et fais le bien, alors tu vivras en sécurité dans le pays. » Il ne connaissait pas ça, mais quand même Dieu lui avait fait des promesses. Jésus lui-même avait été tenté de la même manière quand il était dans le désert pendant 40 jours. Et le diable lui a tenté de transformer les pierres en pain pour vivre. Et Jésus a répondu avec ces paroles magnifiques. « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et souvent, malheureusement, nous faisons la même erreur qu'Abraham. Nous regardons la situation, oubliant que Dieu est celui qui pourvoit et qui protège. Et nous remplaçons ce qu'il a dit dans sa parole par notre propre plan, en raisonnant que sa voix n'a pas l'air de bien fonctionner pour l'instant, et de plus, nous pensons que Dieu comprendra pourquoi nous avons dû changer de direction contre les indices et la direction originelle de Dieu. Laissez-moi vous dire que le seul plan qui échouera est le nôtre. Parce que le Seigneur n'approuve jamais la désobéissance, mais travaille uniquement pour accomplir sa volonté dans nos vies. Et la vraie obéissance, c'est faire ce que Dieu dit, quand il le dit, et comment il le dit de le faire. Toute déviation constitue la désobéissance. Et lorsque nous sommes tentés de prendre des choses en main, nous devons nous rappeler que Dieu a permis ces circonstances, même difficiles, afin que nous apprenions à dépendre totalement de lui et à faire confiance en ses promesses. Mais quand la foi cède à la peur, nous oublions ces promesses inconditionnelles de Dieu et nous commençons à craindre l'homme. Et c'est le premier faux pas d'Abraham a conduit bientôt à un autre. Lorsqu'il s'approchait de l'Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. » Elle avait 65 ans, hein? Mais il faut dire que puisqu'elle a vécu jusqu'à 127 ans, à 65 ans, ce serait l'équivalent probablement de à peu près une trentaine d'années. Donc, elle était encore très belle. Qu'est-ce que j'avais dit? 65 ans, elle avait. Abraham avait déjà 75 ans.
Oui.
N'oublions pas, ils ne sont pas tout jeunes dans un sens, mais lui, il a vécu 140, 150 ans. Et quand les Égyptiens te verront, dit Abraham à sa femme, ils se diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront en vie. « Dis-nous donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » Il est vrai, oui, peut-être vrai, que Abraham avait raison, que le pharaon aurait pu vraiment le tuer s'il n'avait pas dit à Sarai de dire que c'était sa sœur. Mais, dans le récit, nous remarquons, le pharaon semble avoir été profondément choqué par le comportement d'Abraham. Quelle honte! Abraham le fit venir à Abraham et lui dit, « Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. » Mais Abraham avait pris sa décision, pas basée sur la foi, mais basée sur la peur. Il avait peut-être tort d'ailleurs, car j'ai trouvé dans des papyrus, pas personnellement, mais dans un récit, dans un livre, que les Égyptiens semblaient avoir une conception assez élevée du mariage. Et selon certains anciens papyrus, on peut lire ceci, « Aime ta femme sans vous quereller. » Ça c'est bien, dit le sage. « Nourris-la, habille-la, donne-lui du parfum, voilà, et du bonheur toute ta vie. Ne sois pas cruel et brutal envers elle. » Voilà ce qui était quand même un concept assez élevé du mariage, de la relation entre le marié et sa femme. Mais évidemment, Abraham ne savait pas tout ça. Il a agi par la peur et pas par la foi. Et même peut-être pas par les faits. Il a dit, il est vrai, une demi-vérité. Car Sarah était sa demi-sœur. Et ce qui est terrible, c'est que 20 ans plus tard, quand il était chez un autre roi, le roi Abimélec, 20 ans plus tard, là il avait donc 95 ans, et sa femme aurait donc 85 ans, exactement la même histoire se reproduit. Il dit que tu es ma sœur. Et c'est le roi qui appelle encore, comme Pharaon, dans le premier récit, Abimélec demande à Abraham, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pris d'agir ainsi? Abraham répondit, je me suis dit, notez le langage, je me suis dit, il n'y a certainement pas de crainte de Dieu dans ce lieu et ils me tueront à cause de ma femme. D'ailleurs, elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père, mais pas de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Et quand Dieu m'avait fait rire loin de ma maison de mon père, je lui dis, voici comment tu peux me montrer ton amour. Que c'est égoïste. Partout, dis de moi, je suis ton frère. Il était prêt à abandonner sa femme pour préserver sa propre vie, même si Dieu avait fait des promesses inconditionnelles concernant son avenir. Vous voyez, quand la foi cède à la peur, nous risquons aussi de faire souffrir les autres et leur faire du mal pour nous protéger, nous. Et l'Éternel infligea de grands maux de plaie au Pharaon et aux gens de sa maison à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Nous oublions, ou nous sommes tentés d'oublier, que quand nous vivons dans la désobéissance, conscient de Dieu, que notre désobéissance affecte souvent, sinon toujours, les autres. Nous oublions cela. Et c'est le cas ici. C'est Pharaon qui a pris le coup et avait des plaies qui étaient infligées sur lui et sa maison. Et notez encore l'égoïsme de ce que Abraham a dit. Dis donc que tu es ma sœur afin que moi je sois heureux à cause de toi. Et que moi, je puisse vivre à cause de toi. La foi a cédé à la peur. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que ce plan semble avoir bien fonctionné, n'est-ce pas? Physiquement et matériellement, il a profité de cette situation. Pharaon lui a fait des cadeaux, des grands cadeaux, des dons d'animaux, de domestiques. Mais à quel prix? Celle-là lui a coûté sa femme. Sarah a été amenée dans le harem de Pharaon. Et en retour, Abraham était bien traité. Mais chose étrange aussi, peut-être encore plus étrange, la grâce de Dieu à son égard, malgré sa désobéissance, l'a accompagnée. Et je me suis dit, en lisant et en écoutant ce sermon et en lisant ce passage, que malgré mes infidélités souvent fréquentes, Dieu n'a jamais abandonné. Il a toujours été fidèle. Et sa grâce s'est renouvelée tous les jours, comme François soulignait tout à l'heure. Et ce n'est pas une raison d'être infidèle, d'être désobéissant. Mais c'est non plus pas une raison de se décourager si on est tombé dans ce piège de d'aller par notre propre voie et par chemin. Mais notons encore qu'Abraham, ayant agi d'une manière indigne, avait mis sérieusement en danger le plan de Dieu. Et il était doublement réprimandé par la discipline de l'intervention de Dieu et aussi par la condamnation franche du monde exprimée par la voix du Pharaon, car même le monde dit virtuellement d'Abraham, « Pourquoi m'as-tu fait cela ? Comment toi, tu es croyant ?» Je paraphrase. « Comment est-ce que tu as pu agir ainsi ?» Et quand le monde voit une désobéissance flagrante de notre part, je crois que même s'ils ne le disent pas, ils pensent, mais ça, un chrétien qui fait ça, pourtant, ça choque. Pharaon était profondément choqué. Et je dois dire que si nos collègues, nos amis, notre famille, s'ils savent que nous sommes chrétiens, ils deviennent très exigeants à notre égard. Ils s'attendent à que notre comportement et notre vie et nos paroles soient à la hauteur de notre profession de foi. C'est pour ça que c'est très dangereux de se départir de la volonté connue de notre Seigneur. Heureusement, l'intervention de Dieu a préservé Sarai et finalement, des centaines d'années plus tard, elle a eu un fils, Jésus-Christ, qui était le descendant, évidemment, d'Abraham et de Sarai. Et c'est par lui que toutes les bénédictions promises à Abraham sont distribuées à nous, les héritiers, par la foi, des bénédictions promises à Abraham. Abraham a cédé, sa foi a cédé à la peur. Il doutait de la provision de Dieu, de la protection de Dieu, et parce qu'il doutait des promesses de Dieu, il est descendu en Égypte. Et l'histoire, ce récit nous enseigne que Dieu garde toujours ses promesses. Il nous avertit de ne pas céder à la peur, nous faire perdre notre confiance en lui, et sortir de sa bonne et parfaite volonté. Mais pour nous encourager, comme j'ai déjà remarqué, Dieu est fidèle, il n'abandonne pas son serviteur. Malgré son infidélité, il n'abandonne nous non plus. Si vous avez rencontré des difficultés et que vous commencez à douter des promesses de Dieu, vous courez le risque de descendre en Égypte. Et si vous avez cédé à la peur, ne faites pas comme Abraham au début, mais faites comme il l'a fait par la suite. Nous n'avons pas lu les versets suivants, Genèse 13, 1 et 3. Abraham remonta d'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il avait, parce qu'il était devenu très riche, et puis il est allé à l'endroit jusqu'à ce qu'il revienne à Bethel, et Haï, où sa tente avait été auparavant, et où il avait d'abord construit un autel, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il est revenu, il est remonté. Alors, basé sur cet espoir, quelles leçons pour terminer ? Triple, trois choses. Si vous êtes dans cette situation-là, remontez d'Égypte, sortir si possible de la situation dans laquelle vous vous trouvez par votre désobéissance. Et je dois admettre que dans certaines situations, physiquement, littéralement, c'est impossible de s'en sortir. Je l'admets. On est coincé, on ne peut pas simplement sortir comme ça quelquefois. Je ne dis pas d'exemple, mais vous pouvez imaginer certaines situations où vous êtes là pour le restant de votre vie. Mais spirituellement, on peut en sortir, même si on ne peut pas le faire physiquement. Revenir donc, remonter d'Égypte, retourner à Canaan, c'est-à-dire rétablir la communion que vous aviez avant votre désobéissance. Renouveler votre relation avec le Seigneur, ça c'est possible, même si vous ne pouvez pas sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc trois choses, remonter d'Égypte, retenez au Canaan, à l'endroit où vous étiez auparavant, spirituellement parlant, et rétablissez à tout prix votre communion, votre relation avec le Seigneur. Et pour terminer, une belle citation d'un écrivain que j'ai trouvé qui pourrait nous encourager dans les semaines à venir et les jours à venir. Il dit ceci, « Abraham n'est pas le père de personnalités bien pensantes, mais le père de ceux qui tombent toujours et toujours sont relevés par une main invisible. Le père de ceux qui tomberont toujours et toujours sont relevés par celui dont la force se manifeste chez les faibles. Ce n'est pas Abraham qu'il faut glorifier, mais la puissance de celui qui est bon pour juger et bon pour relever. Abraham n'est pas le fondateur d'une secte d'hommes qui vivraient parce qu'ils seraient meilleurs que les autres. Lui et son peuple vivent de la grâce de celui qui les a appelés, eux pécheurs, à sa lumière. » Donc, remontons d'Égypte, retournons au Canaan et rétablissons la relation avec le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de pardonner nos infidélités, nos faiblesses. Donne-nous la volonté de retourner là où nous étions, en communion avec toi. Donne-nous la foi et la force et le courage de le faire, afin de glorifier encore le Seigneur dans notre vie de tous les jours. C'est la grâce que nous te demandons en ton nom. Amen. Alors, je pense qu'on a le temps peut-être de chanter, ou pas. 316, à ta gloire, celui qui met en Jésus. Je ne sais pas si c'est prévu. Et le refrain, c'est un refrain que nous pouvons réaffirmer notre foi dans le Seigneur. Par la foi, nous marcherons. Alors, si les paroles paraissent, je ne sais pas. Elles sont là? Bon, très bien.
Pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Les jours d'adversité, en vivant gronder l'orage, regardant sécurité, à Christ reprend courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi nous rédempteurs. Me rendra plus que vainqueur. En Satan veut te troubler, enlever ton espérance, leur passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Sans la voix je marcherai, en comptant sur ses promesses, Marre, je triompherai, en tout temps de mes détresses, par la foi nous marcherons, par la foi nous triompherons, par la foi nous venons terre, et nous prenons plus que vainqueurs.
Si. Si vous n'avez pas eu gardé de notes pour prendre des notes, normalement, si la technique a fonctionné, c'est enregistré, c'est disponible sur le site internet de l'Église pour réécouter ce message. Dans les annonces, donc cet après-midi à 14h, il y a